Jersey.
14h-15h. Le grand journal. Steve Nadjar.
Bonjour à toutes et à tous et Shavu Atov, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Grand Journal au cœur de l'actualité en Israël, en France et dans le monde. On est ensemble en direct pendant une heure. Radio J, il est 14h. Sommaire, l'édito politique d'Alexis Lacroix sur la visite au Maroc d'Emmanuel Macron, le direct de Jérusalem et le bloc-notes de Raphaël Amselem ont invité le diplomate israélien Simon Seroussi. Un grand journal que vous pouvez écouter sur notre site radioj.fr et sur notre appli gratuite. L'émission est également disponible en vidéo sur notre chaîne YouTube. Tout de suite, le premier journal de l'après-midi préparé par Etanit Belaïch. Et au 388e jour de guerre en Israël, les alertes à la roquette ont retenti à Naharia, dans le nord du pays, il y a quelques minutes. Ce matin, le Hezbollah avait lancé une quinzaine de projectiles vers Kiryat Shmona. La majorité des roquettes a été interceptée et aucun dégât n'a été signalé. Un drone en provenance du Liban a par ailleurs été intercepté avant qu'il ne traverse la frontière israélienne. Tzal appelle à évacuer des quartiers de tir dans le sud du Liban. Vous devez vous diriger vers le nord en direction de la rivière Awali. Quiconque se trouve à proximité du personnel, des installations et des armes du Hezbollah met sa vie en danger. Précision du porte-parole de l'armée en langue arabe, Avishai Adraï, sur le réseau social X. Ces dernières 24 heures, Tzal a éliminé des dizaines de membres du groupe terroriste chiite dans le sud du Liban. Du côté de la bande de Gaza, les troupes israéliennes ont arrêté une centaine de membres du Hamas dans l'hôpital Kamal Adwan de Jabalia. Le Hamas utilisait l'établissement médical comme centre de contrôle. Sur place, les soldats ont trouvé des armes, des fonds destinés au terrorisme et des documents de renseignement. Une vingtaine d'hommes armés ont également été tués lors des combats dans la zone autour de l'hôpital.
Il faut comprendre qu'ils ont une façon...
Tzal promet une réponse ferme aux frappes israéliennes sur des sites militaires iraniens samedi. Nous utiliserons tous les moyens disponibles pour répondre de manière ferme et efficace à l'agression du régime sioniste, en effet annoncé le ministre iranien des Affaires étrangères. Pour autant, l'Iran ne devrait pas riposter, estime Raphaël Jerusalmi, ancien officier des renseignements militaires israéliens. On l'écoute.
Il faut comprendre qu'ils ont une façon de parler toujours très dramatique, pour ne pas dire apocalyptique. Ils promettent à Israël la destruction totale depuis des années. D'un autre côté, ils minimisent, et c'est une bonne chose, les effets de l'opération israélienne. L'opération israélienne, bien que assez musclée, n'était en fait qu'un avertissement. On a touché certaines cibles qu'on aurait pu détruire complètement. Donc, normalement, l'armée d'air israélienne peut opérer presque sereinement dans les cieux iraniens.
Raphaël Jerusalmi ce matin sur Radio J. La République islamique paiera un lourd tribut si elle répond aux frappes israéliennes. Elle se comptait à de son côté affirmer l'État hébreu. Les explications de Daniel Haïk.
Le chef d'état-major de Tzal, le général Herzi Halevi, a affirmé qu'Israël était prêt à parer à toute éventualité de la part de l'Iran. Notre message est clair, nous serons capables de neutraliser toute menace qui se dressera contre nous. Nous n'avons utilisé jusqu'à présent qu'une seule partie de nos capacités militaires contre l'Iran. Nous savons en faire beaucoup plus, a dit le général Herzi Halevi. Nous avons frappé des cibles stratégiques samedi en Iran et cela a une importance particulière, a-t-il déclaré lors d'une consultation au sein de l'état-major.
Notre correspondant en Israël, Daniel Haïk. Le Hamas se dit ouvert à un accord pour la libération des otages alors que les pourparlers pour mettre fin à la guerre ont repris hier à Doha. Un accord peut être conclu à condition que Benjamin Netanyahu reste fidèle à ce qui a déjà été convenu, affirmé Oussam Badran, membre du bureau politique du Hamas. Une déclaration qui intervient peu après la présentation d'une proposition égyptienne, proposition qui prévoit un cessez-le-feu de 2 jours à Gaza pour échanger 4 otages israéliens contre des prisonniers palestiniens, trêve suivie de 10 jours de négociations. Les Hébreux ont organisé une seconde journée de deuil national en hommage aux victimes du 7 octobre. Hier, 2 cérémonies ont été organisées par l'exécutif. Une pour commémorer les soldats tombés au combat depuis le début de la guerre et une pour commémorer les civils tués par le Hamas. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a brièvement été interrompu par des proches de victimes lors de son discours dans le cadre des cérémonies à Jérusalem. Jérusalem. Israël doit profiter de l'opportunité créée par l'assassinat du leader du Hamas, Yahya Sinwar, pour rapatrier les otages de Gaza, a lui déclaré le président israélien depuis la capitale israélienne, Yitzhak Herzog, qui s'est à nouveau excusé pour tous les Israéliens morts en un an. Écoutez.
Je suis aujourd'hui ici en tant que président de l'État et au nom de l'État d'Israël. Je vous demande pardon. Désolé de ne pas avoir réussi à protéger vos proches et pardon pour la violation du contrat le plus fondamental et le plus contraignant entre un État et ses citoyens. La protection de leur sécurité et de leur vie.
Le président israélien Yitzhak Herzog. Le président américain Joe Biden, de son côté, déplore l'effroyable montée de l'antisémitisme dans le monde depuis le début des combats à Gaza. Des propos tenus hier lors de la commémoration du 6e anniversaire de l'attaque contre une synagogue de Pittsburgh, en Pennsylvanie. Il y a 6 ans, 11 fidèles juifs avaient été tués par un extrémiste de droite lors de l'attaque antisémite la plus meurtrière du pays. J-8 avant la présidentielle américaine, justement, et le candidat républicain à la Maison-Blanche, Donald Trump, a fait sale comble à New York pour son meeting de clôture de campagne. L'ex-président des États-Unis a rempli la salle mythique du Madison Square Garden. Donald Trump s'est présenté devant 20 000 personnes en sauveur des États-Unis, je cite, détruit par la vice-présidente et candidate démocrate Kamala Harris, avant de dénoncer une invasion des migrants aux États-Unis. Il a alors promis la plus grande opération d'expulsion de l'histoire du pays. Étaient notamment présents à ses côtés Elon Musk, Robert Francis Kennedy Jr. ou encore l'ancien animateur ultra-conservateur de la chaîne Fox News, Tucker Carlson. En France, après le volet recettes, le volet dépenses du projet de loi de finances pour l'année à venir commence à être examiné en commission des finances à l'Assemblée nationale. Et pour obtenir les 5 milliards d'euros d'économies espérées, l'exécutif a annoncé hier vouloir revoir les règles concernant les arrêts maladie dans la fonction publique. Il espère notamment passer d'un à trois jours de carence, comme pour le privé, mais aussi réduire à 90% le remboursement des arrêts maladie des fonctionnaires. En cause, une forte augmentation de l'absentéisme dans la fonction publique depuis une dizaine d'années, selon le gouvernement, qui écarte pour le moment tout recours à l'article 49.3 de la Constitution. Écoutez Laurent Saint-Martin, le ministre du Budget des Comptes Publics.
Moi, j'ai toujours dit quelque chose de très simple. Si le texte respecte deux choses, 60 milliards d'euros d'efforts budgétaires pour redresser les comptes et au moins 2/3 par la baisse de la dépense publique, alors je ne vois pas pourquoi nous ne ferions pas confiance au Parlement. Si le Parlement ne veut pas rester sur cette règle du jeu que nous avons fixée, alors le gouvernement prendra ses responsabilités.
Laurent Saint-Martin, le ministre du Budget des Comptes Publics, au micro hier de Frédéric Aziza. Du sport pour terminer ce premier journal avec du football et les résultats d'un classico très attendu. Le Paris Saint-Germain a surclassé l'Olympique de Marseille hier soir depuis le stade Vélodrome. Les Parisiens ont dominé les Olympiens, 3-0, devancé dès l'entame du match. L'OM n'a créé aucun danger et a été même copieusement sifflé par le Vélodrome après la rencontre. À la mi-temps, le Paris Saint-Germain menait déjà 3-0 grâce à des réalisations de Neves, de Balerdi contre son camp et de Barcola. Avec cette victoire, le Paris Saint-Germain conforte donc sa première place en Ligue 1. On poursuit cette édition avec l'ouverture du carrefour politique de cette édition.
Radio J. Steve Nadjar.
Et avant de retrouver le décryptage politique d'Alexis Lacroix, je vous propose d'écouter Christophe Barbier dans son édito matinal dans le morning. Il commentait tout à l'heure les déclarations d'Emmanuel Macron lors de la conférence organisée sur le Liban à l'Élysée jeudi dernier. Déclarations qui ont fait grand bruit et à raison, puisque le chef de l'État a estimé, en visant Israël, qu'on ne défendait pas une civilisation en semant la barbarie. On écoute Christophe Barbier au micro d'Ilana Ferradion.
C'est d'une violence inouïe, le mot barbarie. Si le président avait dit cette guerre sème la ruine et la désolation, oui, toutes les guerres font cela. S'il avait dit attention, les pertes civiles, ça engrange la mécanique de la rancune, de la vengeance et donc les haines et les guerres futures, oui, c'est un discours qu'on pouvait entendre et ça responsabilise une puissance comme Israël. Mais dire barbarie, mais si Tsahal est barbare, alors que doit-on dire des tueurs de Daesh qui ont brûlé vif un pilote jordanien dans une cage de fer il y a quelques années? Que doit-on dire des terroristes du Hamas qui ont violé, tué des enfants, etc.? Que doit-on dire des des terroristes qui sont entrés au Bataclan pour massacrer des jeunes qui écoutaient un concert. Que doit-on dire, de tout ce que l'islamisme politique et intégriste nous a envoyé comme tueurs? Donc c'est d'évidence pas le bon mot. Alors, quand on regarde l'histoire, barbare, ça a servi à tout. Les Grecs appelaient barbares tous ceux qui ne parlaient pas leur langue. Ça faisait beaucoup de monde. En Europe, nous avons appelé barbares les habitants de la barbarie du 15e, 16e siècle jusqu'au 19e. C'était tout le Maghreb qui était appelé les barbares, la barbarie, les barbaresques. Donc vous voyez, c'est un mot élastique. Néanmoins, Emmanuel Macron ne l'emploie pas aveuglément. Et il a fait.
Sait ce que ça veut dire.
Il sait ce que ça veut dire. Et là, il a franchi une ligne psychologique qui est absolument ahurissante. Alors pourquoi, vous me disiez, pourquoi? Parce que je crois qu'il sent que lui-même lui échappe des mains son rêve du Liban. Ce Liban multiculturel, multiconfessionnel, cette mosaïque politique que, bien sûr, par le simple geste magique de sa présence, il allait rétablir, il allait restaurer, il allait ressusciter en 2020 après l'explosion du port. C'est ça, c'est le rêve d'Emmanuel Macron. Il voit bien que ni en France, ni au Liban, ce genre de mosaïque idéale n'est possible. L'époque ne va pas vers cela, ce n'est pas une bonne solution, parce que les choses lui échappent des mains. Plutôt que de se rallié à la réalité et à un certain pragmatisme, il continue dans cet idéalisme qui a une conséquence, ménager le Hezbollah, ne pas trop déplaire à l'Iran, et ça je pense que c'est un mauvais calcul.
D'ailleurs on sait qu'un membre du Hezbollah fait partie de la délégation qui était présente lors de cette conférence avec le gouvernement libanais.
Oui bien sûr, parce que la France reste attachée à la coupure du Hezbollah en deux, le Hezbollah armé donc terroriste, et le Hezbollah politique donc respectable. Non, cette coupure-là, elle est totalement obsolète parce que le Hezbollah est devenu tout simplement et uniquement l'instrument, le levier, l'outil de l'Iran pour que jamais le Liban ne redevienne le Liban.
Christophe Barbier, que vous retrouverez dès demain 7h45 pour l'interview politique.
Je remettrai demain matin ma démission au président de la République.
Il y aura aussi dans cette nouvelle page des changements et des ruptures.
Quand on prend les Français pour des abrutis, en général, ils s'en souviennent.
Il est hors de question que nous puissions rentrer dans un gouvernement qui augmente les impôts.
Je ne vois pas en quoi cette procédure complètement infondée est utile aux Français.
Et donc évidemment, nous censurerons.
La chronique politique du Grand Journal, et on a le plaisir de retrouver Alexis Lacroix. Bonjour Alexis.
Plaisir partagé, bonjour.
Merci à vous, vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Alexis Michel Barnier a été nommé à Matignon il y a moins de 2 mois, mais il se projette loin. Selon des propos tenus au journal Le Parisien et publiés samedi dernier, le Premier ministre entend, je le cite, changer le pays avec un plan de réforme à 5 ans, un plan qu'il présentera dans quelques semaines, une sortie alors que les députés, Alexis, ne sont pas parvenus à examiner à temps la semaine dernière tous les amendements relatifs à la partie consacrée aux recettes du budget 2025. Alors Alexis, quelles grandes idées pourraient selon vous inspirer ce plan quinquennal?
Alors d'abord, on peut en dire un mot. C'est vrai que quand on est un peu bloqué, et il peut être bloqué sur la ratification du budget qui est présenté à l'Assemblée, il est en train d'essayer, si vous voulez, de contourner des esquifs successifs, et c'est compliqué. Donc on a toujours intérêt à se projeter dans une perspective politique plus longue. C'est ce qu'il fait, voyez, à dessiner un horizon de conquête politique. C'est ce qu'il fait en parlant de sa réforme de ce pays à 5 ans. Par ailleurs, il est aussi à la recherche de bonnes idées. On sait qu'il y a des axes, hein, la simplification, la décentralisation, ça n'est pas un jacobin pur sucre, hein, à l'évidence, ouais. Le Premier ministre, mais aussi donner une plus grande efficacité aux impôts, autrement dit à la collecte des impôts. Ce sont des axes...
Mieux flécher les dépenses,
etc., va faire partie du projet qu'il s'apprête à présenter dans quelques semaines.
Là, c'est pas très original, Alexis.
Non, c'est pas très original. Il ajoute effectivement qu'il ne veut pas gérer en défensif le projet de budget. Et nous avons la confirmation de ce que nous disons depuis plusieurs semaines, à savoir qu'il s'agit d'un libéralisme conservateur, mais tempéré. Vous voyez, nous n'avons pas affaire à quelqu'un qui serait un émule de Madame Thatcher, ou de l'école du Chicago, ou de leur version française. On a parlé récemment de M. Madeleine, M. Ciotti va un peu dans ses pas. Non, on n'est pas là-dessus, on est plutôt sur le libéralisme français, qui est un libéralisme relativement modéré, et qui veut faire sa part aussi à ceux qui sont les plus modestes, ne pas les écraser non plus trop de prélèvements, etc., etc. Donc effectivement, il ne faut pas caricaturer les positions de Michel Barnier. C'est la droite, mais ce n'est pas une droite ultra-libéral, on en a la confirmation avec toutes ces déclarations. Et puis par ailleurs, il y a un autre aspect qui est intéressant.
Oui.
Alors, on peut dire que c'est un effet d'annonce, mais c'est pas sûr. Le Premier ministre assure vouloir consulter les cahiers de doléances qui ont été, selon lui, trop vite refermés et qui avaient été rédigés par les Français.
Après la crise des Gilets jaunes.
Voilà, c'est-à-dire, en fait, ça s'échelonne, si vous voulez, sur toute l'année 2019. La crise des Gilets jaunes, vous savez, a marqué les consciences, a fait vaciller le trône présidentiel et l'ensemble du gouvernement de l'époque.
Qu'est-ce
et...
que cela dit, selon vous, Alexis, de sa démarche et de sa méthode ?
Alors, ça dit de sa démarche, on peut en penser du mal par ailleurs et la critiquer sur le plan politique, mais en revanche, il y a probablement une perception d'un tissu social français, et géographique d'ailleurs, hein, parce que ça va ensemble, qui est largement décousu, qui est largement dépareillé, qui est largement fragmenté, comme on dit aujourd'hui dans le, avec le mot à la mode, fracturé. Mmh. Et donc, le Premier ministre, quand il fait cette annonce, dont on peut penser qu'elle n'est qu'une annonce, mais elle n'est probablement pas qu'une annonce. J'insiste souvent avec vous, je le fais parce que je crois que c'est vrai, sur le caractère performatif du langage politique. Autrement dit, quand on tient un discours en politique, en réalité, ce discours préempte, prépare, annonce des actes, ou même revient lui-même à être un acte. Eh bien, en réalité, au travers de ce discours, le Premier ministre dessine ce qui pourra être une partie de son projet, on le verra quand il va l'annoncer clairement, qui est de retisser une partie du lien aujourd'hui compromis, en tout cas, comment dire, amoindri, en tout cas un petit peu relâché, je cherchais le mot, entre les Français. Et ceci passe, selon lui, par la prise en compte du désir de justice qui s'était exprimé dans ses cahiers de doléances, qui avait été, en fait, négligé, non utilisé par les différents gouvernements successifs d'Emmanuel Macron, qui s'était, après la réussite du grand débat, vous savez, qui s'était un peu assis dessus en se disant, bon, bah, c'est pas grave. Et donc, effectivement, quand il va ouvrir les cahiers de doléances, il va le faire, on peut en être certain. Quoi qu'on pense, par ailleurs, de ses orientations politiques et idéologiques, on peut les critiquer. Mais en revanche, effectivement, il va essayer de s'inspirer d'un certain nombre de demandes, et notamment, on le savait à l'époque, hein, il y avait cette demande d'une république moins hiérarchique, plus décentralisé, plus horizontal dans les territoires. Ça peut être un des éléments recteurs de la matrice qu'il va développer, c'est-à-dire une république plus proche de ses citoyens, de ses administrés. C'est évidemment, vous le savez bien, c'était notamment au travers de la colère politique maximale qui s'est exprimée alors, c'était une des demandes de beaucoup de Gilets jaunes. Hein, vous voyez, avoir accès aux services publics dans des zones paupérisées, et éloigné du territoire, la fameuse France périphérique décrite par les sociologues, etc. Ne pas avoir affaire à un État qui vous donne toujours l'impression que tout se passe dans la capitale, à Paris ou en Île-de-France, etc., etc., etc. Vous voyez, la décentralisation, d'ailleurs...
Le fait de s'inspirer, donc, pour conclure ce point, Alexis, des cahiers de doléances, c'est un symbole fort qu'on voit...
À l'évidence, on est toujours dans la poursuite de ce que nous avons analysé, qui n'est pas une complicité, mais qui est un désir de répondre à certaines interrogations, à certaines requêtes, à certaines demandes de l'électorat du Rassemblement National depuis plusieurs années, pour mieux contenir la poussée du Rassemblement National. Là, c'est pas pour le servir, c'est pour le contenir. Et donc, nous assistons, on va le dire en termes techniques, à une triangulation des exigences de cette France populaire qui, jusqu'alors, se vit comme une laissée pour compte du récit de la mondialisation heureuse.
Alexis
Barnier, de ce point de vue-là, semble s'inscrire, contrairement à beaucoup de macroniens, en décalage, en dissidence vis-à-vis de ce récit de la mondialisation heureuse.
Alexis, il nous reste quelques instants pour parler de la visite d'Emmanuel Macron au Maroc, une visite d'État de 3 jours censée sceller la réconciliation avec Rabat après plusieurs années de crise. Il était temps, Alexis.
Alors, tout dépend de quel point de vue on se place. Il y a eu un pari qui a été fait et qui remonte d'ailleurs à assez longtemps. D'une réconciliation autour des questions de mémoire avec l'Algérie. Ce pari n'a pas porté les fruits qu'en escomptait notamment l'actuel président de la République. Il avait été commencé d'ailleurs en grande partie aussi par son prédécesseur, par François Hollande. Et aujourd'hui, effectivement...
Un rapprochement avec l'Algérie qui avait mal été accueilli par Rabat.
Alors voilà. Et entre-temps, effectivement, on peut le dire... comme vous dites, Rabat, enfin, le Maroc, les autorités marocaines, le roi, son entourage, etc., avaient très mal pris cette tentative d'enterrer l'âge de guerre historique, hein, mémoriel, avec l'Algérie au prix de nombreux sacrifices. Finalement, ça n'a pas donné grand-chose. Et finalement, aujourd'hui, la France se retrouve dans la nécessité de reconquérir des positions diplomatiques sur le continent africain, où, on va dire, son hégémonie restante lui est disputée par beaucoup d'illibéraux, de la Chine à la Turquie et de la Russie à d'autres pays comme l'Azerbaïdjan.
Ce qui a tout changé, c'est la reconnaissance par Emmanuel Macron de facto de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental.
J'allais vous le dire. Effectivement, le verrou, c'était qu'il n'y ait plus ce problème avec le Sahara occidental. À partir du moment où Emmanuel Macron fait un geste, au travers d'ailleurs de conversations qu'un certain nombre de ses envoyés spéciaux ont eues, on sait que Rachida Dati a un rôle également important dans la coulisse, eh bien effectivement tout redevient possible avec le Maroc. Et d'ailleurs, je vais vous dire, le Maroc, on peut en penser ce qu'on veut par ailleurs, on peut critiquer sa politique sur certains points, etc. Mais ce qui est sûr en revanche, c'est que depuis longtemps, il tient à cette alliance étroite avec Paris. Et donc effectivement, nous assistons actuellement à des tentatives de renouer cette relation privilégiée pour ne pas laisser à des puissances illibérales, mais pour ne pas laisser aussi, on peut le dire, on est sur Radio J, pour ne pas laisser non plus à Israël, qui est une puissance parfaitement libérale, elle en revanche, le privilège de nouer des relations étroite avec ce Maroc qui aujourd'hui est un émergent puissant.
Merci beaucoup Alexis Lacroix d'avoir été avec nous. Bon après-midi et à demain.
Radio J. Steve Nadjar. Radio J. Radio
J. C'est l'heure de marquer une première pause. On se retrouve dans un instant pour la deuxième partie du Grand Journal. Nous serons aux côtés de Pascal Sunshine pour le Jacques de Jérusalem et du rabbin Michael Azoulay. Restez avec nous, vous êtes bien sur Radio J. A tout de suite. Salut ici.
Radio J.
Radio J.
Tous les lundis, 21h, 22h.
Classico.
Salut, c'est Steve Nadjar. Retrouvez-moi ce soir à 21h pour Classico, l'émission foot de Radio J. Daniel Riolo, Julien Cazard, Jimmy Algerino, Pascal Olmeta, Grégory Schneider, ils sont déjà venus à Classico. On vous y attend, soyez prêts. Coup d'envoi ce soir, 21h, sur Radio J.
Radio J.
Vous rêvez d'un investissement immobilier rentable et sécurisé? Avec Helios Premium Immobilier, c'est possible au cœur de la magnifique Riviera Maya au Mexique.
Helios Premium Immobilier.
L'équipe française d'Helios Premium Immobilier vous accompagne sur place à chaque étape de votre projet. Investissez sans contrainte, diversifiez vos avoirs et maximisez vos gains dans un marché en pleine croissance avec un environnement fiscal avantageux. Ne manquez pas cette opportunité exceptionnelle.
Helios Premium Immobilier.
WhatsApp au +33 601 741 452.
Radio J.
Le Grand Journal, Steve Nadjar.
Radio J.
Le retour du Grand Journal, merci d'être avec nous pour la deuxième partie de cette émission que vous pouvez suivre sur le DAB et suivre en vidéo sur notre chaîne YouTube notamment. Direction maintenant, Jérusalem.
Radio J.
Ose shalom bimrovmav.
Pascal
Sunshine. Bonjour Pascal.
Bonjour Steve.
Et merci de nous rejoindre en direct. Vous êtes notre correspondante permanente en Israël. Pascal, alors que le chef des gardiens de la révolution iranien a menacé Israël de représailles après l'attaque de vendredi nuit, le Kontix en hébreu du guide suprême Ali Khamenei a été suspendu après des menaces contre l'État hébreu.
48 heures après la riposte israélienne, l'Iran en est encore à l'évaluation des dommages subis et de ses options de réponse. Le chef des gardiens de la révolution promet des conséquences inimaginables pour Israël, tout en assurant que les frappes israéliennes avaient échoué et n'avaient pas atteint les objectifs prévus. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères affirme de son côté que Téhéran utilisera tous les outils à sa disposition, sans donner plus de précision, mais affirmant qu'il infligera une réponse efficace et définitive au régime sioniste. Selon ces termes, le président iranien Massoud Pezeshkian a indiqué quant à lui que son pays ne souhaitait pas la guerre, mais défendrait les droits de la nation. Quant au guide suprême, l'ayatollah Khamenei, il distille des menaces en affirmant qu'Israël a commis une erreur, en sous-estimant la puissance et la détermination de l'Iran. À noter donc, vous le disiez Steve, que le Kontix en hébreu d'Ali Khamenei a été suspendu 24 heures à peine après son ouverture. Si les déclarations des dirigeants iraniens restent assez elliptiques, c'est d'abord parce qu'ils doivent donc établir un état des lieux complet des dégâts causés par les frappes de l'aviation de Sahal et décider s'ils en reconnaissent la totalité avant de trancher sur la nature et l'ampleur de leur riposte, les destructions des batteries de défense aérienne qui devaient protéger les installations pétrolières et les sites nucléaires vont les rendre beaucoup plus vulnérables en cas de contre-attaque israélienne. Et d'autant plus si les États-Unis, comme ils l'ont promis, défendent Israël en cas de nouvelle attaque iranienne. C'est aussi pour cela que les Iraniens ne sont pas pressés de confirmer le bilan de leurs pertes. Officiellement 5 tués, mais 26 selon des sources citées par le journal britannique The Independent.
Sur le terrain, Pascal, des roquettes ont visé ce midi la ville de Kiryat Shmona et il y a quelques minutes, Haïfa, Tsahal de son côté, poursuit ses opérations dans le sud Liban et dans le nord de la bande de Gaza.
Et des tirs du Hezbollah sur le nord d'Israël qui continuent sans interruption. Haïfa et ses environs visés il y a quelques minutes. Encore 30 roquettes vers Nahariya il y a un peu moins d'une demi-heure et des dizaines de roquettes ce matin contre la région de Kiryat Shmona. Il n'y a pas eu de blessés. Sur le front sud, Sahal a annoncé avoir pris le contrôle de l'hôpital Kamal Adwan à Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza, hôpital que le Hamas avait transformé en poste de commandement. Les patients ont été évacués, puis les troupes israéliennes ont investi le bâtiment où ils ont appréhendé plusieurs dizaines de terroristes. Enfin, toujours aucun progrès en ce qui concerne le dossier des 101 otages, toujours captifs à Gaza. Le chef du Mossad poursuit ses entretiens à Doha avec le premier ministre qatari, le chef des renseignements égyptiens et le directeur de la CIA. Différentes pistes sont à l'étude pour une reprise des négociations et notamment cette proposition du président égyptien Al-Sisi d'une trêve de 48 heures en échange de la libération de 4 otages suivie de 10 jours de négociations intensives en vue d'un accord global.
Merci beaucoup Pascal d'avoir été avec nous en direct de Jérusalem. Bon après-midi et à demain.
À demain.
Radio J, le grand journal, Steve Nadjar.
Nous retrouvons à présent le rabbin Michael Azoulay. Bonjour à vous et Shavua Tov.
Bonjour Steve, Shavua Tov. Shavua Tov.
Je rappelle que vous êtes le rabbin de la communauté juive de Neuilly-sur-Seine et que vous conseillez le grand rabbin de France, Raïm Corsia, sur les questions sociétales. Nous avons lu Shabbat dernier la paracha de Bereshit, démarrant ainsi un nouveau cycle de lecture de la Torah. Et vous vous demandez cet après-midi, monsieur le rabbin, pourquoi Dieu a créé ce monde alors que l'homme s'affaire à le détruire, comme l'attesteront les prochaines parachiotes.
Écoutez, c'est très étonnant. Quand on lit Bereshit, on commence à lire la Torah, on recommence la Torah comme on le fait chaque année après les fêtes d'automne. On est étonné de voir que cette parache, le récit de la Genèse, se présente comme une succession d'échecs. Adam et Ève qui transgressent l'interdiction de goûter aux fruits de la connaissance, du bien du mal. Vous avez le premier fratricide, un homme qui tue son frère, Caïn qui tue Abel, la tour de Babel. On va continuer avec Dieu qui va anéantir l'humanité à l'exception de Noé et sa famille.
Comme si aucune leçon n'avait été tirée.
Ben, écoutez, c'est un peu l'impression que l'on a. Et du coup, cette question, elle est posée d'une manière extraordinaire dans un midrash célèbre où Dieu consulte. Avant de créer le monde, Dieu aurait consulté ses anges pour leur demander s'il était bien ou pas, et s'il serait avisé ou pas de créer le monde. Et voilà. Et étonnamment, les anges disent non. Il vaut mieux que tu crées le monde parce que l'homme est appelé à te décevoir, à fauter, à créer, à détruire finalement ce que tu crées. Et finalement, Dieu passe outre la décision des anges, on va voir pourquoi, et il crée le monde quand même. Et c'est vrai que tout pousse à dire que Dieu n'aurait pas dû créer le monde, puisqu'encore une fois, et d'ailleurs c'est même la fin de la paracha de Bereshit qu'on a lu samedi dernier, où Dieu dit qu'il est regretté, littéralement. Après, il faut évidemment comprendre cet anthropocentrisme, mais Dieu dit qu'il regrette d'avoir créé le monde. Donc c'est assez étonnant. Alors finalement, Steve, qu'est-ce qu'on peut tirer de cela? Ben écoutez, il y a une formule du grand rabbin Jonathan Sacks, qui était le grand rabbin du Royaume-Uni et du Commonwealth, qui avait une formule que j'aime beaucoup et qui va peut-être répondre à notre question. Il disait que plus que l'homme a foi en Dieu, c'est Dieu qui a foi en l'homme. Foi ici pris dans le sens de confiance. C'est-à-dire qu'effectivement, l'homme échoue, mais Dieu espère qu'à un moment donné, l'homme réussira à donner un sens à la création. Et finalement, ces échecs successifs ne doivent pas nous faire désespérer en l'humanité, parce que vous savez, quand on entend ces actualités, on vient d'écouter à l'instant pas être journaliste. C'est vrai que des fois, on peut se dire, mais finalement, l'homme détruit, enfin, est capable de détruire énormément. Et on se dit, effectivement, alors pourquoi l'homme a été créé?
C'est un processus long qui s'écrit tout au long de l'histoire, finalement.
Voilà, exactement. Et Dieu ne désespère pas de voir un jour l'homme, finalement, construire au lieu de détruire. Mais ça prend du temps. Et d'ailleurs, le Midrash de tout à l'heure, peut-être pour conclure, qui parlait des anges qui disent à Dieu, il ne faut pas créer l'humanité. Dieu crée quand même l'humanité en vertu d'un principe, notamment ce qu'est la teshuva, le repentir, c'est-à-dire finalement la possibilité qu'a l'homme de changer pour le bien. Et finalement, c'est ça, cette formule du Rama Sachs. Dieu a foi au sens. Foi dans la Bible, c'est jamais foi à croire que Dieu existe. Hein. C'est toujours la confiance que l'on met en quelqu'un, que l'on place en une personne. Ben, finalement, Dieu a confiance en l'homme et il croit que l'homme sera capable finalement de donner un sens à sa création.
Merci beaucoup, Monsieur le Rabbin, Michael Azoulay, d'avoir été avec nous. Je renvoie nos auditeurs à la lecture de votre dernier livre intitulé « Un arbre de vie pour la cité, judaïsme et société », un livre publié aux éditions Lishma. Bonne semaine à vous et à lundi prochain.
Merci à vous aussi, à tout le monde. À lundi prochain.
Merci.
Radio J, le grand journal, 14h-15h, Steve Nadjar.
Il est 14h30, merci d'avoir choisi Radio J pour vous informer. Tout de suite, le rappel des titres. Et à la une de l'actualité israélienne, les alertes à la roquette ont retenti dans les localités israéliennes proches de la frontière avec le Liban il y a quelques minutes, tout comme dans la région de Haïfa. Plus tôt, le Hezbollah avait lancé 30 roquettes vers la région de Naria. Certains des projectiles ont été interceptés par l'armée. Pour l'heure, aucun dégât n'a été signalé. Le ministère israélien de la Défense annonce l'attribution d'un contrat d'environ 2 milliards de shekels, soit près de 500 millions d'euros, à plusieurs sociétés israéliennes. Objectif, accélérer le développement du système laser anti-aérien Iron Beam. Ce système devrait permettre à l'armée d'intercepter plus efficacement les drones. Du côté du Liban, Tsahal a mené des frappes sur la ville de Tyr, dans le sud du pays, après des appels à évacuer. Ces dernières 24 heures, Tsahal a éliminé des dizaines de membres du groupe chiite dans la région. Et puis en France, les députés entament cet après-midi l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale, en plein débat sur les arrêts maladie des fonctionnaires. Le gouvernement espère passer d'un à trois jours de carence, comme pour le privé, mais aussi réduire à 90% le remboursement des arrêts maladie dans la fonction publique.
Radio J.
C'est l'heure de vous présenter le programme de la prochaine demi-heure sur Radio J. Juste après la pause, je recevrai le diplomate israélien Simon Seroussi, avec lequel nous discuterons des tensions entre Israël et l'Iran. Vous écouterez également Raphaël Amselem et le Tani avec Raïm Nissemboum. Restez avec nous, le Grand Journal revient dans une poignée de secondes. A tout de suite.
Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+ et sur notre appli Radio J.
Radio J. Vous êtes un professionnel de l'immobilier à la recherche d'un réseau qui vous comprend? Meilleurbien.pro est là pour vous. Meilleurbien.pro vous offre un environnement innovant et équitable conçu pour optimiser vos dépenses tout en maximisant vos profits. Rejoignez un réseau où votre expertise est valorisée avec des outils modernes et un accompagnement sur mesure. Meilleurbien.pro, c'est l'immobilier de demain, accessible dès aujourd'hui. Faites le choix de la performance et du succès. Meilleurbien.pro, la solution digitale pour les professionnels de l'immobilier.
Radio J. Le grand journal, Steve Nadjar.
Radio J.
Merci d'être avec nous pour la troisième et dernière partie du grand journal, émission que vous pouvez suivre notamment en vidéo sur nos chaînes Facebook, X et YouTube. Place maintenant à l'entretien de cette édition.
Radio J, l'invité du grand journal.
Radio J, Steve Nadjar.
Bonjour Simon Seroussi.
Bonjour.
Et merci de nous rejoindre en direct. Vous êtes diplomate au sein du département Europe du ministère israélien des Affaires étrangères. Simon Seroussi, quel bilan tirez-vous des frappes israéliennes contre l'Iran dans la nuit de vendredi à samedi dernier? Benjamin Netanyahu a affirmé hier que l'attaque avait atteint tous ses objectifs, mais des membres de l'opposition, notamment l'ancien ministre de la Défense israélien, Avigdor Lieberman, ont regretté la nature limitée de ces frappes. Qu'en pensez-vous?
Alors, d'abord, il y a un aspect, je dirais, technique à ces frappes. un aspect tactique où nous avons vu des frappes très précises sur des cibles militaires. Le Premier ministre israélien a déclaré que des sites de production de missiles et des capacités de défense de l'Iran ont été frappés et que tous les objectifs israéliens ont été atteints. C'est donc, d'un point de vue tactique, une vraie réussite. Maintenant, il y a un aspect stratégique qui est très important, qui, dans une période aussi compliquée que la période dans laquelle nous nous trouvons, où Israël est attaqué sur tous les fronts, il y a un message très très fort qui est envoyé à la région dans son ensemble et aux ennemis de l'État d'Israël à travers le monde. Nous répondrons à chaque attaque sur notre territoire. Aucun ennemi n'est trop loin ou trop fort pour résister à notre réponse.
C'était un nouveau test des capacités aériennes à longue distance de l'armée israélienne ?
À la fois des capacités, mais aussi la détermination israélienne, la détermination de l'armée israélienne, la détermination des dirigeants israéliens et de la détermination du peuple israélien dans son ensemble. Dans une région aussi complexe que la nôtre, avec des pays, des entités terroristes qui sont vouées à notre destruction, nous sommes obligés de faire passer des messages extrêmement forts, et pas seulement à travers des paroles, mais aussi à travers des actes. Chacune de ces entités, chacun de ces États, chacun de ces régimes qui appellent à notre destruction, sache que le bras d'Israël pourra les atteindre partout où ils sont, au cas où ils agissent contre nous. Et c'est le cas des Mollahs. Il faut rappeler qu'Israël n'a pas voulu de cette guerre. C'est le régime des Mollahs qui a attaqué par deux fois avec des centaines de missiles balistiques tirés sur les villes israéliennes. Et Israël n'a fait que répondre pour rétablir l'équilibre des forces et faire comprendre à nos ennemis que nous attaquer à un coup.
Simon, c'est aussi lors d'une réunion un peu plus tôt dans la journée, Benjamin Netanyahou a déclaré, selon la chaîne israélienne N12, n'avoir pas renoncé à s'occuper du programme nucléaire iranien. C'est la première de nos préoccupations, ajoutait le Premier ministre israélien. Est-ce qu'on se trouve, selon vous, dans un moment critique où tout devient possible, y compris un bombardement des sites nucléaires iraniens?
L'Iran a un programme nucléaire depuis de nombreuses années. Et c'est une des plus grandes préoccupations stratégiques de l'État d'Israël, si ce n'est la plus importante. Car lorsque vous avez un régime qui, à la fois, a un discours qui va avec une volonté de détruire l'État d'Israël, on connaît les déclarations des dirigeants iraniens, et en parallèle qui essaye de se donner les moyens d'avoir les capacités de le faire, c'est quelque chose d'inacceptable pour nous. Et nous connaissons l'histoire du peuple juif, nous savons aujourd'hui ce que cela peut dire lorsque un de nos ennemis dit qu'il veut nous détruire. C'est donc une priorité pour l'État d'Israël, ça l'a toujours été, d'empêcher l'Iran d'accéder à l'arme nucléaire, mais plus globalement, c'est une menace contre l'ensemble de la civilisation occidentale, l'ensemble des pays de la région.
Est-ce qu'Israël peut agir seul dans ce dossier extrêmement complexe?
Israël, je ne rentrerai pas dans les détails d'action ou pas de l'État d'Israël. Ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas uniquement une préoccupation de l'État d'Israël, c'est une préoccupation de l'ensemble du camp occidental, c'est une préoccupation de nombreux pays modérés de la région qui subissent l'expansionnisme, l'agressivité et les attaques continues de l'axe iranien dans la région. De nombreux pays du Moyen-Orient ont peur de l'Iran, sont très inquiets de l'Iran et sont très inquiets des capacités, des actions que pourrait prendre le régime des Mollahs s'il arrivait à la bombe. Et donc je pense, pour répondre à votre question, que c'est une préoccupation régionale et mondiale et que de nombreux pays doivent nous accompagner dans ce travail afin d'empêcher l'Iran d'accéder à l'arme nucléaire.
Sur le plan diplomatique, Simon, c'est aussi une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU se tient tout à l'heure à partir de 20h à la demande de l'Iran. Téhéran soutenu dans sa démarche par la Chine, par la Russie et par l'Algérie pour rappeler à condamner les bombardements israéliens contre le territoire iranien. Est-ce que vous espérez que les autres membres du Conseil de sécurité s'opposent à cette démarche, notamment côté français ?
c'est évident que nous voyons l'affrontement aujourd'hui d'Israël sur sept fronts comme l'affrontement de la civilisation occidentale contre l'axe de l'islam radical chiite mené par l'Iran. Et nous pensons donc que l'ensemble des pays occidentaux doivent se tenir auprès d'Israël, que ce soit de façon diplomatique ou de façon plus opérationnelle, doivent se tenir à nos côtés afin de faire face à cette menace qui, au final, est une menace aussi pour de nombreux autres pays occidentaux, y compris pour la France, y compris pour de nombreux pays européens. Et donc oui, nous attendons un soutien dans cette guerre sur sept fronts de nos amis occidentaux, de nos amis européens et américains qui très souvent le font et nous voulons ce soutien et nous espérons qu'il va être de plus en plus important.
Nous en parlions en deuxième partie de cette émission avec notre correspondante à Jérusalem, Pascal Zonshine. Le chef des gardiens de la révolution iranien, le général Hossein Salami, a déclaré ce matin qu'Israël avait échoué à atteindre ses objectifs et a même promis deux terribles conséquences. Une riposte iranienne vous apparaît comme une hypothèse probable, Simon Saoussi ?
Nous connaissons la volonté destructrice du régime des Mollahs. Je ne me prononcerai pas sur leurs prochaines actions. Ce que je peux vous dire, c'est que Tsahal est prêt à tous les cas de figure, autant en défense qu'en attaque.
Est-ce que côté israélien, il y avait la volonté, à travers ces frappes ciblées, de clôturer, au moins ponctuellement, cette séquence ?
Du côté israélien, si l'Iran fait l'erreur d'attaquer Israël de nouveau, notre réponse sera extrêmement ferme. Et c'est quelque chose qui a été dit très clairement du côté israélien, et que je répète ici, si l'Iran attaque de nouveau Israël, il y aura une réponse du côté israélien, une réponse extrêmement ferme. Les pays de la région, l'Iran, ont vu dans les actes les capacités de l'État d'Israël à se défendre, et comme nous l'avons toujours fait par le passé, nous n'hésiterons pas une seule seconde à les utiliser de nouveau pour défendre notre population.
Je voudrais qu'on aborde à présent avec vous, Simon Saoussi, la situation dans la bande de Gaza et le sort des otages. Le chef du Mossad, David Barnea, s'est envolé hier à Doha pour y rencontrer le chef de la CIA, William Burns, et le Premier ministre qatarien, Mohamed Abdul Rahman Al Thani. Des discussions qui portaient sur la possibilité de reprise des négociations en vue de la libération des otages. Est-ce que, selon vous, l'élimination de Yahya Sinwar modifie complètement la situation ? Est-ce qu'il rend nécessairement le Hamas plus souple, plus ouvert à des négociations et à un accord ?
Le Hamas n'est pas souple et n'est pas ouvert à un accord. Nous l'avons vu depuis le début de cette guerre. C'est une organisation terroriste qui retient en otage des civils dans des conditions absolument terribles. Et nous avons la preuve tous les jours du refus du Hamas s'engager dans de réelles négociations afin de libérer ses otages. Comme le Premier ministre israélien l'a dit, après l'élimination du chef du Hamas, Yahya Sinwar, nous continuons à mettre la question des otages comme une priorité, comme un des objectifs prioritaires et centrales de cette guerre. Et c'est donc tout à fait logique que des hauts officiels israéliens s'envolent donc vers le Qatar afin de discuter avec ses médiateurs pour essayer d'arriver à une solution. Les jours qui viennent nous diront si du côté du Hamas il y a enfin une volonté à discuter. Ce qui est évident du côté israélien, c'est que nous ne permettrons pas que le Hamas reste une menace pour l'État d'Israël et pour les citoyens israéliens. La situation dans laquelle nous étions avant le 7 octobre, où le Hamas représentait une réelle menace pour la population israélienne, avec les conséquences que nous avons vues il y a près d'un an à Simchat Torah, n'est plus acceptable pour l'État d'Israël. Nous n'accepterons pas de retourner dans une telle situation, ni même d'ailleurs sur le front nord.
Merci beaucoup Simon Serossi d'avoir été avec nous en direct. Je rappelle que vous êtes diplomate au sein du département Europe du ministère israélien des Affaires étrangères et qu'on peut réécouter cet entretien sur radioj.fr et en vidéo sur notre chaîne YouTube. Bon après-midi à vous.
Au revoir, merci.
Radio J. Steve Nadjar.
Le bloc-notes de Raphaël Amselem à présent. Bonjour Raphaël.
Bonjour.
Ravi de vous retrouver en direct et en studio. Vous êtes analyste en politique publique au sein du think tank Génération Libre et vous avez choisi ce lundi de revenir sur le dernier, l'énième délire de Rima Hassan, l'eurodéputée de la France Insoumise, qui a reposté un message sur le réseau social X présentant les Juifs d'Israël comme des descendants des Khazars. Qu'est-ce que cette référence charrie selon vous, Raphaël? Référence que l'on retrouve d'ailleurs beaucoup dans les milieux complotistes.
D'abord, ce retweet de Madame Hassan qu'elle a retiré d'ailleurs, parce qu'il ne s'agirait pas, en plus d'être médiocre sur le plan intellectuel, d'avoir du courage. Bon,
Les captures d'écran existent
et je me suis chargé personnellement de les conserver si elles étaient contestées par Madame Hassan. Bon, d'abord, elle nous ferait presque regretter d'être partie en vacances, parce que du coup, on n'a pas eu l'occasion de pouvoir en revenir directement sur cette actualité-là. Non, elle a réussi un double exploit. D'abord de nous servir avec le complot des Khazars et ensuite de nous parler des sémites, parce que le retweet qu'elle a fait, c'est un tweet qui dit ce sont les Khazars
qui oppriment les vrais sémites.
Les vrais sémites, exactement. Donc on va revenir sur les deux si vous voulez. Donc sur la question des Khazars, il faut savoir que c'est de longue date, vous avez tout un tas d'universitaires qui en parlent, mais il y a un très bon article dans la revue Le Droit de Vivre de Stéphanie Kouroubchar, qui est historienne du négationnisme, qui a fait tout un inventaire, un historique très intéressant. Et on voit alors plusieurs choses. Donc le point essentiel, c'est de dire que les Juifs aujourd'hui sont en réalité des descendants de convertis et que les véritables Hébreux, ce sont des Palestiniens qui se sont certes convertis avec le temps, mais ce sont des Palestiniens.
Et donc, c'est une nouvelle version du virus Israël.
C'est une façon de dire qu'au fond, les Juifs aujourd'hui ne sont pas légitimes, ce sont des usurpateurs dans leur volonté de réclamer un droit à la terre. Et il faut noter que cette question des Khazars est un point commun, autant à l'extrême droite, notamment américaine, qui explique qu'en gros, les véritables Juifs se sont convertis au catholicisme, ont reconnu le Christ. Mm-hmm. Bon, vous voyez tout de suite l'intérêt de cette théorie. En France, c'est évidemment repris par Soral, qui explique que les Juifs ashkénazes sont en réalité des Khazars, donc ce sont des usurpateurs de la même façon, et repris donc par la gauche antisioniste, toujours dans ce même objectif de dire que les Juifs n'ont pas de droits légitimes. En ce sens-là, Madame Hassan s'inscrit dans une forme de continuité, puisqu'elle avait relayé il y a quelques mois l'ouvrage de Monsieur Sand.
Shlomo
Sand, sur comment le peuple juif fut inventé. Et au fond, on en revient toujours à la même question, bon, au-delà du fait que cette théorie est évidemment fumeuse, qu'elle a été démentie un nombre incalculable de fois, mais avérons qu'elle soit vraie, qu'une partie des juifs aujourd'hui soient des descendants de convertis. Il faut savoir qu'un peuple, c'est pas de la génétique. Je sais que Madame Hassan a publié récemment son test MyHeritage pour montrer qu'elle avait des origines juives, qu'elle pouvait peut-être réclamer un droit à vivre en Palestine. Mais en fait, un peuple, ce n'est pas une génétique. Donc même si les juifs aujourd'hui sont des descendants de convertis, qui ne sont pas purs ou de souche, je ne sais pas comment on peut les appeler, ça empêche que en fait, la nation, c'est une construction sociale. Donc en ce sens-là, il n'y a pas à opposer une sorte de véracité, de pureté du sang. Je trouve que cette rhétorique Madame Hassan est très pernicieuse. C'est le deuxième point.
Sur les sémites.
Sur les sémites, je pose la question, est-ce que Madame Hassan croit dans les races humaines? Parce que les sémites, c'est une théorie largement contredite depuis, qui a notamment été très en vogue au XVIIIe et XIXe siècle, qui voulait que l'humanité était divisée en diverses races, dont les sémites, et en disant que les sémites, évidemment, sont inférieurs aux blancs européens. Donc certes, vous avez les langues sémitiques, qui a pour le coup une notion tout à fait existante dans le monde académique, mais à des peuples sémites, ça n'existe pas, à moins que vous croyiez dans l'existence des races. Donc, d'une part, les sémites n'existent pas, d'autre part, le terme d'antisémitisme, qui est souvent le reproche fait, pourquoi est-ce que l'antisémitisme est seulement réservé aux Juifs.
Ce qui pousse certains à préférer le terme de judéophobie.
Absolument, sauf que l'antisémitisme, historiquement, est un terme qui a été inventé expressément contre les Juifs, notamment par Wilhelm Marr, la seconde moitié du XIXe siècle, pour dire qu'en gros, les Juifs sont des impurs et tâche au milieu des peuples européens et que la solution, c'était de les renvoyer en Palestine. Donc, si vous voulez.
Une logique clairement racialiste à l'époque.
Absolument. Donc, si vous voulez, ce tweet de Mme Hassan réussit un double combo. Et je terminerai simplement en posant une question. Elle avait dit à l'époque, concernant une déclaration de M. Séjourné à la demande du CRIF, moi, je poserai la question à Mme Hassan, à la demande de Soral.
Raphaël, vous vous êtes également exprimé sur les réseaux sociaux après que le directeur général de France Travail se soit félicité de la réussite à ses yeux de la réforme du RSA. Selon lui, au bout de 6 mois, on en est déjà à 42% de retour à l'emploi. Pourquoi ces déclarations vous gênent-elles, Raphaël ?
Elles me gênent à un double titre. D'abord sur l'élément statistique en soi qui veut que ces chiffres seraient probants pour prouver la réussite de la réforme du RSA. Ils ne le sont pas parce que, un, ce n'est pas un échantillon représentatif, que, deux, sur une période aussi courte, je ne vois pas ce qu'on peut évaluer, que, trois, ça s'inscrit dans une période globale de baisse du chômage. Donc, je vois difficilement comment on peut accréditer à cette réforme-là le fait que 42% des personnes bénéficiaires de cette réforme, enfin, bénéficiaires entre guillemets, aient pu retourner à l'emploi.
Donc, ça sera au moins 2-3 ans pour pouvoir mesurer les résultats.
Ça, je ne sais pas, mais je suis en train de dire que 6 mois sur un échantillon de population aussi faible, ça n'est probant en rien. Deuxième point, parce que ça, c'est l'élément statistique, maintenant, je voudrais parler du fond du sujet. Je trouve que ce chiffre est symptomatique d'un débat public qui est, en termes philosophiques, on pourrait dire très utilitariste. C'est-à-dire qu'il s'intéresse pour savoir si une réforme est bonne ou mauvaise, si elle est utile à la société. Mais on peut avoir une réforme qui est utile, mais qui n'est pas juste. En l'occurrence, j'estime que cette réforme n'est pas juste. Elle n'est pas juste parce qu'elle fait correspondre à une situation sociale de pauvreté, une injonction administrative, celle de répondre à la bureaucratie sociale. C'est-à-dire que parce que vous êtes pauvre, parce que vous viviez à 600 euros par mois, maximum, ce qu'est le RSA, et ce qui est, pardon, déjà en soi une contrainte suffisante, et on devrait beaucoup plus le répéter dans le débat public. Donc, à raison de votre situation sociale, vous devez répondre aux injonctions de l'administration. Vous devez remplir des papiers, vous devez répondre à des réunions, vous devez répondre aux injonctions sous peine qu'on vous retire votre droit. Et c'est là où je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement injuste, c'est qu'on indexe le droit à survivre. On explique à travers cette réforme qu'on doit mériter sa subsistance. Or, je crois qu'une société qui défend la notion de dignité humaine, c'est précisément une société dans laquelle le corps social s'organise pour qu'aucun de ses membres ne subisse la précarité, pour qu'aucun de ses membres ne meure parce qu'il n'a pas eu de quoi manger ou se loger à raison de sa situation sociale. Or, cette réforme qui explique qu'on doit conditionner l'obtention du RSA à des critères purement administratifs, se concentrant que sur une partie infime de la population, à savoir les pauvres, me semble être totalement vexatoire au principe de dignité.
Merci beaucoup, Raphaël Abdeslam, d'avoir été avec nous ce lundi dans le Grand Journal. Je rappelle que vous êtes analyste en politique publique au sein du think tank Génération Libre. On peut vous retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur X, et retrouver cet échange, notamment sur notre chaîne YouTube. Bon après-midi,
bonne
semaine
également
à vous, et à lundi prochain.
Radio G. Le Grand Journal, Steve Nadjar.
Nous allons retrouver Chaïm Issemboum pour le Tania. Bonjour Chaïm.
Shana
Tova. Bonjour
à tous. Et Shana Tova, bien sûr.
Merci de nous rejoindre comme chaque lundi pour cette lecture du Tania, dont nous démarrons aujourd'hui le 29e chapitre. Je vais en lire un court passage avant de vous céder la parole. Il y a un autre aspect que les Benonim ont encore à affronter, à savoir qu'occasionnellement et même fréquemment, ils éprouvent une certaine insensibilité du cœur. Celui-ci devient semblable à une pierre et l'homme est incapable, quoi qu'il fasse, de l'ouvrir au service du cœur, c'est-à-dire à la prière. Parfois aussi, il est incapable de lutter contre le Yetzer, lutte qui lui permettrait de se sanctifier à l'égard des choses permises, et ce en raison du poids qui alourdit son cœur. Réveiller, lutter contre l'insensibilité du cœur, c'est une question qui revient souvent dans les commentaires autour des fêtes de Tichri, de Rosh Hashanah, Kippour, en vue d'une teshuva.
Absolument, d'ailleurs, on le constate souvent. Dans tous nos textes, nous disons je peux être endormi, mais dans le texte, ça donne « velibir », mais mon cœur est en éveil. Autrement dit, le cœur, c'est effectivement bien l'instrument qui nous permet de ressentir et de nous rapprocher de Dieu. Bien sûr, ça est à prendre au sens figuré. Mais rappelons-nous que dans la tradition juive, comme dans beaucoup d'autres, d'ailleurs c'en est l'origine, le cœur c'est le réceptacle de toutes les émotions, de l'amour de Dieu, de la crainte de Dieu, etc., etc. Donc c'est bien de cela qu'il s'agit. Il s'agit de retrouver un cœur sensible qui nous permettra de le servir comme il convient. Alors que se passe-t-il ? Pourquoi le cœur cesse-t-il d'être sensible ? Dans son état naturel, effectivement, c'est comme cela que ça devrait être. Mais voilà, l'homme finit parce qu'il a lui-même cultivé, encouragé par sa manière de vivre, par ses égarements, il a encouragé cette perte de sensibilité. Ce qui fait que le cœur finit par ne plus, si l'on peut dire, fonctionner normalement, et il n'y a plus dans le cœur que ces sentiments qui devraient y être de manière, si l'on peut dire, automatique.
Alors c'est la faute, ce sont les fautes qui, de manière plus ou moins régulière, insensibilisent le cœur, le dévitalisent.
En réalité, ce sont les fautes, mais pas seulement. Il y a les comportements que la Torah condamne comme étant négatifs, ce que l'on appelle donc les fautes, les avérotes. On a enfreint la volonté de Dieu et cela n'est pas sans conséquence sur notre propre personnalité. Mais il y a bien plus. Il y a notre manière de vivre au quotidien. C'est-à-dire que quotidiennement, nous vivons dans un monde matériel, ça fait partie, si l'on peut dire, de la règle. Dieu a décidé que nous devons vivre dans un monde qui a ses propres contraintes. Littéralement, un monde matériel avec tout ce que cela implique. Mais dans ce monde matériel, nous devons, et c'est toute la difficulté, nous devons nous comporter différemment. Dans ce monde matériel, nous devons agir différemment, c'est-à-dire que nous devons spiritualiser la matière. C'est là notre fonction, c'est là notre rôle. Nous devons changer les choses. Or, il est très possible que tout cela ne se réalise pas parce que nous allons nous laisser aller. Et au lieu de changer le monde, c'est d'une certaine façon le monde qui va nous changer. Or, ce ne sont pas strictement parlé des avérotes, des fautes. C'est simplement
l'absence de bonnes actions.
Ou encore pire, l'absence d'action qui change la nature matérielle du monde pour en faire du spirituel. Or, cela va nous entraîner loin du sillon que nous devrions tracer, puisque nous ne sommes pas capables de changer le monde. Alors, comme on l'a dit, la matière du monde, qui par nature est plus grossière, plus épaisse, cette matière va nous donner à nous-mêmes une épaisseur qui ne nous permet plus de nous rapprocher de Dieu au travers de notre vie de tous les jours. Et c'est cela, en réalité, qui pose problème et qui fait que nous perdons cette sensibilité essentielle.
Est-ce qu'on peut dire, Chaim, que c'est la pente naturelle de l'homme de laisser son cœur s'insensibiliser, en tout cas de ne pas profiter de chacune des opportunités qui lui sont offertes pour se rapprocher de Dieu ?
Bien, naturel au sens strict. C'est-à-dire que nous avons le choix entre deux chemins. Le chemin naturel, le chemin de la nature, plus exactement, c'est-à-dire de la nature corporelle, épaisse de l'homme. Et nous avons l'autre chemin, parce que dans l'homme, il y a deux aspects. Il y a cet aspect physique et corporel, cet aspect grossier, et puis il y a un aspect qu'on dira spirituel. L'homme est à la fois un ange et un animal, si l'on peut dire. Alors on peut suivre la pente de la nature, celle de l'animal, ou alors on peut suivre l'autre nature, qui est davantage une surnature, l'aspect ange de l'homme, qui évidemment nous élève au-dessus de nous-mêmes et nous rapproche de Dieu.
Merci beaucoup, Chaim Nissemoum, d'avoir été avec nous pour le Tania, à retrouver sur radioj.fr. À demain.
À demain.
Radio J, 14h, 15h, Le Grand Journal, Steve Nadjar.
Et c'est déjà la fin du Grand Journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à Alan et à Ethan à la réalisation cet après-midi.
Radio J.
Vous pouvez retrouver cette émission sur radioj.fr et en streaming notamment sur Spotify. À suivre, un nouveau journal et juste après le Late Show avec Annabelle Show, 21h classico. On se retrouve demain, même heure, même endroit. D'ici là, portez-vous bien.
Le Grand Journal. Le Grand Journal. Steve Nadjar.
Le Club Immo Radio J, Marc Ezrati.
Radio J.
Bonjour, c'est Marc Ezrati. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 16h20 pour le Club Immo. Rejoignez-moi pour un tour de l'actualité de l'Immo, des analyses éclairées et les discussions passionnantes avec les meilleurs experts du secteur. Le Club Immo, c'est votre rendez-vous incontournable. A tout à l'heure, 16h20 sur Radio J.
Radio J.
En Israël, chaque seconde compte. Sous la menace constante de missiles, le Magen David Adom est en première ligne pour sauver des vies. Ils ont besoin de vous, maintenant. Chaque don permet d'apporter des soins vitaux, de secourir les blessés et de protéger les civils. Faites un don aujourd'hui et devenez un acteur du sauvetage de vie en Israël. Rendez-vous sur mda-france.org.
mda-france.org. Magen David Adom, association au service de la vie. Jusqu'au 25 novembre, participez à la loterie solidaire du CASIP et tentez de remporter des lots prestigieux. Vous rêvez d'un SUV Peugeot 2008, d'un collier Messica, d'une montre Hermès, de billets pour un match de foot de la Ligue 1, d'une console de jeu.